Bonjour à tous. Comme un jeudi, démocratie, inégalité, mixité, quels sont les nouveaux défis auxquels les villes doivent faire face? Sociologue et historien de l'urbain, mondialement connu pour ses travaux sur le nouveau capitalisme, l'américain Richard Sennett sera l'invité de la deuxième partie de la Grande Table à partir de 12h55 et puis autour de 13h20, comme un jeudi sur deux, le rendez-vous du médiateur. Mais d'abord, absurde, il est parti sans mot dire, le roi de la déconnade a posé son crayon et s'en est allé dimanche dernier, convoquons Guéluron, Super Dupont, Isaac Newton, Enco, pour un retour sur l'œuvre de Marcel Gottlieb, aujourd'hui avec deux fidèles, le cinéaste Patrice Lecomte et le dessinateur Blutch, nos invités, à écouter ou, pour une fois, à regarder en direct sur la page Facebook de France Culture.
Grande Table, Olivia Gesbert.
Accusé, levez-vous. Vos noms, prénoms, âge et qualité.
Gottlieb, Marcel, 46 ans, auteur de bande dessinée, directeur de Fluide Glacial, le mensuel d'humour Le meilleur du moment, etc., etc.
Marcel Gottlieb était le Déconum Rex, le roi de la déconnade. Taille moyenne à la ville, statufié en 5 mètres de haut à Angoulême, de Pilote à l'écho des savanes jusqu'à Fluide Glacial, c'est une immense bulle de bande dessinée qui nous a quittés dimanche dernier. Dépressif, migraineux et insomniaque, disait-il dans le privé, mortellement drôle dans ses œuvres, goûtant aussi bien à l'absurde qu'à l'humour noir, Gottlieb, dans la voix de ses amis, était d'abord un génie merveilleux et un fou exigeant. Le père de Guéluron, Super Dupont et la coccinelle nous a donc quittés, comme on le retrouve aujourd'hui avec vous, messieurs. Patrice Lecomte, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes scénariste, réalisateur des Bronzés, de Ridicule, de La fille sur le pont ou encore du Magasin des suicides, adaptation animée de Jean Tellet. Vous rencontrez Gottlieb alors à Pilote, puis réalisez ensemble Les WC étaient fermés de l'intérieur, un film sorti en 76. Blutch, illustrateur de presse et dessinateur de bande dessinée, passé par Fluide Glacial, auteur de Mitchum, Peplum, Vitesse moderne, de La présidente ou encore Lune l'envers. Autre corde à votre arc aujourd'hui, le cinéma. Merci d'être là et bonjour à vous.
Merci, bonjour.
Messieurs, Gottlieb, il aimait bien se dessiner et se mettre en scène. Hein. C'est un premier trait de cet homme, un génie au tempérament auto-parodique, dit de lui le dessinateur Jean-Claude Mézières. Comment se représentait-il, Marcel Gottlieb, Patrice Lecomte?
Mais il se représentait comme il était dans la vie, mais en pire. C'est-à-dire qu'il avait un goût formidable pour l'autodérision. Et donc, quand il se représentait, c'était vraiment pour se moquer de lui-même. Vous me direz le service minimum, mais il le faisait bien.
Coiffé aussi.
Il se grandissait un peu quand même, je trouve.
Oui.
Il y avait une petite intention mégalo, il se rêvait comme tel en tout cas. Il ne l'était pas dans la vie, mais dans ses dessins.
Oui, en effet, il se tressait des lauriers, il était sublime, magnifique, mais c'était pour mieux se moquer lui-même. C'est-à-dire qu'il ne s'est jamais dessiné comme étant une crotte de bique, certes, mais cette mégalomanie était drôle, quoi, évidemment.
Ses dessins, vous n'êtes pas d'accord
parce que,
du tout.
Non, je suis d'accord, mais je veux dire que Marcel était dupe de personne et en premier lieu, il n'était pas dupe de lui-même, si vous voulez. Donc, il avait un regard perçant et dubitatif sur tout ce qui l'entourait et sur sa propre personne en premier lieu. Oui.
Vous pouvez nous faire, vous, Blutch, un crowbar de Gottlieb tel qu'il se représentait?
Ouais. Ah, bien sûr, oui, évidemment, oui. C'est comme si c'était fait.
Pendant ce temps, on discute, nous, Patrice.
Bien sûr.
Parce qu'il a décidé de vous contredire aujourd'hui, Blutch.
Non, du tout.
Donc, un Gottlieb coiffé de lauriers impériaux, sorte de Jules César du dessin, isoyé en héros, statue de la liberté à l'aube, Popeye à midi, Marianne entre 5 et 7 et Superman la nuit. Mais il n'a pas fini sa vie en pervers pépère, Gottlieb, en vieux lubrique. Ses fantasmes, il les a complètement libérés sur le papier, on peut dire ça comme ça?
Oui, d'une certaine manière. C'est assez drôle, d'ailleurs. Quand il travaillait à Pilote, quand il faisait les dingos dossiers avec Goscinny ou la rubrique à bras qu'il faisait seul, ce qui était des pages mais tordantes, quoi, vraiment tordantes, inventives, drôles, barrées, décalées, enfin, il a fondé Fluide Glacial Pardon, L'écho des savanes, excusez-moi. Et là, dans L'écho des savanes, qu'il avait fait avec Claire Bretéché et Mandrika, à tous les trois, il s'est libéré en disant, là, je peux dessiner des bides, des trucs. Enfin bon, il s'est senti d'un seul coup très, très libre. Et curieusement, mais peut-être que c'est pas si curieux que ça, j'ai trouvé, pour mon goût, ça n'engage que moi, qu'à partir du moment où il était libéré, il était moins drôle.
Ah.
Ouais. Je trouve que ce qu'il a fait à... C'est pas bien de dire ça de quelqu'un qui est parti il y a quelques jours, mais
bon... Mais il était peut-être plus juste ?
Non, je crois qu'il s'est senti pousser des ailes, que comme si Pilote et Goscinny l'empêchaient d'exprimer des choses qu'il avait en lui, et ces choses qu'il avait en lui me semblaient moins drôles que ce qu'il faisait partout ailleurs, en l'occurrence à Pilote.
Blotch, pendant que vous dessinez, vous entendez ce que dit Patrice Lecomte ? Vous pouvez réagir, hein, toujours.
Malheureusement, quand je dessine, je n'entends plus rien. Je suis incapable de parler.
Bon, ben c'est très bien. Continuez de dessiner.
Vous m'avez bien eu, Olivia.
Restez sourd. Patrice Lecomte, on va raconter peut-être du coup la rencontre entre vous deux pendant que Blotch caricature, dessine, croque Gottlieb à sa manière. Vous le lisiez dans Pilote et tout bêtement, vous avez demandé à le rencontrer.
Ben, c'est-à-dire que oui, j'étais lecteur de Pilote. J'adorais ce magazine, cet hebdo. J'étais étudiant de cinéma dans une école de cinéma qui n'existe plus, qui était l'IDEC. Et comme je sentais bien que Gottlieb était cinéphile, qu'il aimait le cinéma, il y avait des références dans ses pages, des références permanentes au cinéma, je me suis dit, ce type aime le cinéma, c'est évident, donc rencontrons-le. Et à cette époque, franchement, c'était très facile de rencontrer les gens. J'ai mis un petit mot à Pilote, il m'a répondu, on a pris un café, on est devenus amis.
Ensemble, vous écrirez Les WC, étaient fermés de l'intérieur, une comédie loufoque adaptée des aventures du commissaire Bougret, personnage de la rubrique à braque. Bande-annonce.
Gaumont Distribution est fier de vous présenter la plus formidable enquête policière de tous les temps. Les WC étaient fermés de l'intérieur. Le fameux commissaire Pichard, un des patrons les plus prestigieux de la PJ, flanqué de son fidèle adjoint, l'inspecteur Charbonnier, va se trouver confronté à l'énigme la plus redoutée de la gente policière, le terrible problème de la chambre close. En effet, un homme est trouvé mort dans ses WC. Et tout porte à croire qu'il a été assassiné. Or, ses WC étaient fermés de l'intérieur. C'est d'ailleurs ce qui donne le titre de cette bouleversante enquête. Les WC étaient fermés de l'intérieur. Une enquête qui vous catapultera aux quatre coins du monde. Paris, Marseille, Étretat, rue Gabriel Péri. Des répliques inédites.
Bon sang, mais c'est bien sûr.
Un érotisme insoutenable.
Monsieur ?
De l'amour.
Patron, oui, si vous saviez comme je vous aime.
Les WC étaient fermés de l'intérieur. Votre prochain suspense.
J'ai jamais vu une enquête aussi con.
Les WC étaient fermés de l'intérieur, Patrice Lecomte, c'est peut-être pour ça que le film n'a pas trop marché ? Les spectateurs sont restés enfermés ?
Oui, non, c'est-à-dire qu'ils étaient les WC fermés de l'intérieur et quelqu'un de mal intentionné avait dit les salles aussi. Et donc les gens ne sont pas venus. Mais je ne sais pas si c'est un... Chez Gaumont, ils s'attendaient à un triomphe et ça n'a pas été un triomphe. Mais aujourd'hui... avec le charme du démodage, le film est paré de toutes les grâces. Il est devenu culte, faut peut-être pas exagérer, mais il va pas tarder.
Et peu importe, c'est resté pour vous une formidable aventure humaine, parce que vous avez écrit le scénario ensemble. Comment ça se passait, Marcel Gottlieb, venait chez vous
Alors, ça se passait, lui il habitait au Vésinet, moi à l'époque j'habitais à Vaucresson, donc c'était banlieue ouest, et il n'avait pas un grand chemin à faire, et il venait pour des séances de travail, après c'est moi qui écrivais, et quand je lui ouvrais la porte, effectivement vous disiez tout à l'heure qu'il était migraineux, dépressif, enfin, et il était migraineux, il entrait... Il me demandait immédiatement une double aspirine en se massant les tempes en disant « J'ai une de ces migraines oh. !» Et il s'affalait sur la moquette, adossé au mur. Et je me dis « Mais on va jamais pouvoir travailler, inventer des trucs drôles avec ce type-là. » Et en fait, si. Si, on inventait des trucs drôles.
Mais c'est arrivé. C'est
bien
arrivé.
Sûr.
Et Blotch a rendu sa copie.
Oui, je trouve magnifique.
Donc ça, c'est Gottlieb. Dessiné presque en gros crapaud, non,
non mais
il manque le cigare quelque part, avec la chemise à fleurs. Qu'est-ce que vous avez écrit, Blotch? Tas de petits cons.
Non, mais c'est pas à vous qu'il écrit ça. Hein.
Non, s'il y en a un tas, j'imagine que c'est pas pour moi toute seule, en tout cas.
Non, ce qui est...
Vous le voyez comme ça, Blotch ?
Parce que ça fait... Parce que moi, je l'ai connu plus tard à Flux Glacial, lorsque j'y suis arrivé à la fin des années 80. Et des fois, je l'entendais dire ça. Il disait « petit con ».
Au moment du bouclage ?
Oui. À d'autres occasions. Il y avait les petits cons. Et je me suis toujours Et c'est quelqu'un, d'ailleurs, ça fait partie, c'est un de mes baromètres intimes. J'ai toujours essayé de pas faire partie des petits cons que Marcel désignait. Donc, voilà, je m'étais.
C'était peut-être un compliment, non? Et d'ailleurs, c'était pas flatteur dans sa bouche.
C'est étrange pour moi d'être ici, là, dans ce studio, parce que on devait déjeuner chez Marcel aujourd'hui avec Pétillon. C'était prévu à jeudi 8 depuis longue date. Et comme dit René, il nous a fait faux bond. Et donc, là, on est là avec Patrice comme deux idiots. Mais
non, à moitié. Vous êtes à la grande table et on parle de Gottlieb.
Il y a côté incongru, si vous voulez. Moi, j'ai connu Marcel plus tard. Il avait la cinquantaine. Il dessinait plus déjà, moi, quand je l'ai connu, parce que j'ai gagné. Flux de la Salle avait organisé un concours de dessin, de bande dessinée en 87. Et le concours, je l'ai gagné. Le premier prix, c'était un chèque mirifique de 5000 francs et une publication dans le journal. Et j'ai connu Gottlieb à ce moment-là, en fait.
Il avait posé son crayon quand? Dans les années 80, justement?
Ouais, en 86. Pourquoi le dernier album, c'est Guéluron en slip. Il avait 50 ans. Il avait dessiné comme. En 20 ans, il avait dessiné comme moi, je dessine depuis 30 ans. Je veux dire, il a eu une production effrénée jusqu'à se fiche la main en l'air. C'est pas le seul, d'ailleurs. Hein. Je veux dire, je pense à Uderzo et d'autres. Je veux dire, c'est des gens qui travaillaient comme des Romains. Et je pense qu'il était épuisé, quoi.
Par fatigue? C'est pas parce qu'il avait tout dit?
Non, je pense qu'il y a une fatigue physique aussi. Il y a vraiment, ça demande. D'ailleurs, ça se voit quand vous voyez les planches originales de Gottlieb, où il n'y a pas de repentir, où il n'y a pas de blanco, de typex, qui sont d'une propreté, d'une netteté impeccable. On sent une tension, si vous voulez. On sent une tension, un soin, un tel investissement. Je pense que on sort pas de là indemne, si vous voulez. Donc, il n'avait pas tout dit, parce qu'il a dit des choses par la suite sous d'autres formes, notamment je pense à ses éditoriaux là qu'il a écrit pour Fluid jusqu'au début des années 2000. Enfin, je veux dire, il en avait encore sous la pédale, mais en tout cas le dessin, j'aime pas ce mot, mais ça demande un tel investissement, voilà. Et puis il a travaillé aussi, on va dire, pour les autres, parce que les gars comme moi, il leur a mis le pied à l'étrier.
Il était directeur de journal, en fait.
Je veux dire, autant il y a eu un Goscinny pour lui, lui, il a été mon Goscinny, si vous voulez.
Eh bien, justement, Plutch, avec Patrice Lecomte, déjeuner sur l'herbe aujourd'hui avec Gottlieb. Guéluron, né dans Vaillant, l'ancêtre de Pif Gadget, chien endormi au faux air de Droupy de Tex Avery, son pote Jujube et sa belle depuis Belle Lurette. En 65, première publication dans Pilote pour Gottlieb et naissance d'une amitié presque filiale avec René Goscinny, le père d'Astérix. Ensemble, ils vont bosser sur les dingos dossiers et 68, création de la rubrique Abrac.
Depuis 1962, il y avait un journal qui était le phare, qui illuminait toute la BD, c'était Pilote. Donc je me disais, il faut absolument que j'essaye de m'infiltrer dans Pilote, surtout que j'avais vaguement fait la connaissance de Goscinny, qui était encore à Record, avec Tabary. Et puis un beau jour, j'ai préparé une histoire qui, dans mon esprit, était destinée à Pilote. Parce qu'à l'époque, Pilote avait des histoires à suite, mais toujours une histoire en 6 pages. Alors je me suis dit, je vais me caser là-dedans. Je pense qu'ils apprendront jamais, mais on ne sait jamais. Et puis, j'étais reçu par Charlier. Et Charlier a lu mon histoire, sans aucune expression de visage, ni de tristesse, ni de chagrin, ni de rire. Et à ce moment-là, la porte s'est ouverte et Goscinny est entré. Et Charlier a dit, tiens, René, lis ça. Goscinny l'a lu. Et finalement, ils l'ont prise parce qu'elle cadrait exactement avec le numéro qu'ils préparaient. Et quand je suis parti et qu'ils ont gardé mon histoire, mes 6 pages, Goscinny m'a dit, ben, on attend la suite. J'étais à ça du sol en partant rue du Louvre. C'est là que Goscinny m'a proposé les dingos dossiers.
Voilà la rencontre entre Gottlieb, dont on entendait la voix dans un Avoir nu sur France Culture, c'était en 2010, et son père spirituel, son père de dessin, Goscinny, qu'il a rencontré à Pilote. Alors depuis, Dargo a réédité les fameux Dingo dossiers et Rubrique à Braque, on a fait des bandes dessinées. Plutch, vous disiez, vous, il y a eu cette rencontre également qui s'est faite avec Gottlieb, pour l'un comme pour l'autre. Comment vous pouvez peut-être qualifier son dessin aujourd'hui? Ou autrement dit, qu'est-ce qu'il a apporté de vraiment nouveau à la bande dessinée, Gottlieb?
Une forme d'hystérie. Une hystérie, une tension et une libération graphique. Une énergie, un sens du détail, une espèce de le détail, parce que beaucoup de choses se jouaient en vous savez dans les coins, en dehors de la scène, on va dire principale. Donc moi je sens une grande tension dans son dessin
Une hystérie douce.
Non, pas douce.
Ah non, pas douce. Pas douce. Non. C'est quand je dis, c'est vraiment l'hystérie, une virulence, notamment lorsqu'il quitte Pilote, qu'il lance l'écho et puis plus tard dans Fluide, il y a des planches d'une virulence totale, brutale.
Mais ce qu'il y a d'assez curieux, c'est que c'est vrai, c'est presque antinomique alors que ça l'est pas. C'est que il y a un côté hystérique, enfin, il y a une énergie, il y a un rythme, il y a un truc de, il y a une folie, une vraie folie. Et alors que son dessin est un dessin, sinon laborieux, du moins assez appliqué. Effectivement, c'est pas des croquis, c'est pas des trucs lâchés vite fait pour être dans la course, dans le mouvement. Son dessin est oui, assez laborieux. Quand je le voyais dessiner, c'est, il s'applique, il gomme, il repasse. C'est ce que disait Blush tout à l'heure. Il y a pas un repentir, il y a pas un truc gratouillé pour, et c'est curieux de raconter des histoires, de raconter des histoires drôles avec cette énergie là et d'avoir un dessin qui est appliqué, aussi appliqué.
Patrice Lecomte, Blutch, plus qu'une blessure, il y a eu la déportation de son père à Drancy, puis à Buchenwald, où son père mourra peu avant la capitulation du Troisième Reich. Marcel Gottlieb vivra, lui, caché, quand il était petit, une vie d'enfant juif pendant l'occupation, qu'il racontera dans J'existe, je me suis rencontré chez Flammarion. C'est un enfant de la culture populaire aussi, Marcel Gottlieb, avec ses pères en parodie. Vous évoquiez Goscinny, qui lui a mis la main au crayon, mais il faut aussi citer Matt, d'Harvey Kurtzman, que Gottlieb appelait la bande dessinée réalistico-comique, les Monty Python, Alphonse Allais, il puisait ses références un peu partout dans la littérature, dans le cinéma, et justement le cinéma, Patrice Lecomte, c'était un dessinateur très cinéphile, on retrouve beaucoup de cinéma dans ses BD, c'était presque des storyboards de cinéma pour vous?
Non, je ne dirais pas que c'était des storyboards, mais il aimait faire des parodies de films qu'il avait vus, et je me souviens d'une parodie qui m'avait enchanté, d'un film de Jean-Pierre Melville, qui était Le Cercle Rouge, et qu'il avait appelé Le Rectangle Vert, le Rectangle Vert étant le dollar. Et Melville, qui était quand même sans doute un bon cinéaste, mais qui prétendait détenir la vérité, Melville caricaturait avec son Stetson, ses Ray-Ban et son air tellement sinistre, asséné des vérités en disant que oui, il avait fait le film pour gagner du pognon. Et le film était extrêmement drôle. Il avait fait le film, les deux pages de Rubik Rabak étaient très drôles. Il avait fait une parodie du film de Claude Sauté, Les choses de la vie, avec une espèce de ralenti effrayant d'un type qui glissait sur sa savonnette avant d'atteindre le lavabo, qui finissait par s'exploser la tête contre le lavabo, et de se moquer. Il adorait les films, on allait beaucoup au cinéma ensemble, il adorait les films, mais de pouvoir en faire la parodie en deux pages, c'était exemplaire. Il faisait pas que ça, mais il faisait ça aussi.
Alors, faut surtout pas qu'on s'arrête à Pilote, viennent ensuite les années 70 avec l'écho des savanes, des dessins plus olé-olé, et la religion, puis la naissance de Super, Dupont, Superman, Franchouillard, et Patriote, fils du soldat inconnu, et Royal, la création de Fluide, Glacial, Potache et Libidineux, où vous l'avez rencontré, Blutch. C'est à cette époque, en 81, plus précisément, qu'il est aussi l'invité accusé du tribunal des flagrants délires sur France Inter. À midi 22, sur France Culture avec le réalisateur Patrice Lecomte et le dessinateur Blutch quand Gottlieb chante Brassens.
Je signale que Marcel Gottlieb s'accompagne lui-même à la guitare, vieux routier du métier.
Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, cocon. Tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons. Tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, entre vous plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan.
Oui, Patrice Lecomte, quand on est con, on est vraiment con.
Ah, ça c'est vrai.
Ouais. Et son humour.
Je sais de quoi, je sais de quoi vous parlez.
Moi aussi. Son humour à Gottlieb, Yves Frémion, ex-chroniqueur du mensuel Fluide Glacial, dit de lui qu'il était la synthèse parfaite entre l'humour juif new-yorkais, l'humour anglais et l'esprit français. On va voir comment Gottlieb définissait son humour. Et là, je pense qu'on va définitivement perdre Blutch.
On m'a souvent taxé d'avoir inventé le second degré. Ce qui est une aberration totale. Le second degré existe depuis l'aube de l'humanité. Hein. Mmh. Et c'est pas moi qui ai inventé le second degré. Le second degré existe depuis très longtemps, depuis Mad, depuis la parodie, etc. Quand Goscinny m'a demandé de prendre la relève après les dingos dossiers, j'ai cherché et... En fait, tout ce qui est mythologie enfantine, mythologie de ce qu'on apprend à l'école, etc., je me suis plongé là-dedans parce que c'était ma culture. Et en fait, oui, c'est ce qui est devenu mon fonds de commerce, disons. Tout ce qu'on apprend à l'école, c'est-à-dire les fables de La Fontaine, les contes de fées. Isaac Newton, c'est un gag pour moi. Parce qu'il prend une pomme sur la tête et il bouleverse, il révolutionne la science. Ça m'a toujours passionné.
Dépressif, Gottlieb, il l'était, on le disait, sa maladie comme un boulet de forçat, il se l'est traîné toute sa vie, comme il l'a dessiné hein, dans La Boule. Vous l'évoquiez, Blutch, dans les années 80, il va lâcher le dessin et se consacrer plutôt à l'écriture, mais il y aura toute une génération d'héritiers comme Book au dessin, lui au scénario. Ensemble, en 2014, ils vont relancer le fameux Super Dupont. Un dernier mot sur Gottlieb, ensemble, il y en aurait beaucoup à dire encore. Blutch, cette coccinelle, vous avez évoqué son dessin tout à l'heure, qui était plus qu'un bouche-trou. Que représentait-elle pour lui? Jules, l'un de vos confrères, l'auteur de Silex and the City, dit que la coccinelle permettait à Gottlieb de faire ce petit pas de côté nécessaire à l'humour, et son insecte est un commentaire de lui-même, comme une sorte de Jiminy Cricket qui ne cesse de mettre les lecteurs en garde. Tout ceci n'est pas sérieux. Tout ceci n'était pas sérieux pour Gottlieb?
Non, la coccinelle, c'est lui-même. C'est lui la coccinelle. En plus, au bout d'un moment, avec les années, il s'est mis à ressembler à la coccinelle.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'espère vraiment qu'ils vont penser à enterrer la coccinelle avec Gottlieb pour le faire poiler au fond de son cercueil, parce que qu'il se retrouve avec lui-même, quoi, pour sourire malgré tout.
Alors, je repense à une chose aujourd'hui. Enfin là, j'ai repensé à un truc, c'est que en 88-89, quand je débutais, j'avais fait une histoire de 5 pages pour Fluide et. Et elle n'a pas été acceptée, ou je ne sais pas si elle a été acceptée ou pas, parce que je repense aussi à Jacques Diamant, qui était le rédacteur en chef à l'époque, qui était l'ami de Marcel. Et Marcel m'avait corrigé ma bande dessinée. Il m'avait envoyé 10 pages de commentaires et de corrections, mais vraiment très très précises et très très. C'était vraiment la cuisine. Hein, et on parlait souvent cuisine, si vous voulez. Donc il y avait une espèce il y avait une générosité chez lui, enfin je sais pas, une élégance, une humilité. Enfin, il y avait, en tout cas, moi j'ai toujours ces 10 pages de commentaires, de corrections. À l'époque, j'étais un petit con. Et je t'ai dit, mais qu'est-ce qui m'emmerde, je suis un artiste, moi, j'ai pas de leçons à recevoir. Et en fait, c'était vraiment, j'ai très vite compris que c'était vraiment très précieux.
Il aimait faire à manger, et vous aurez cuisiné quoi aujourd'hui?
Écoutez, alors là, je serais bien...
Il n'y avait pas une spécialité Gottlieb?
Non, je serais bien en peine de le dire, mais j'ai... J'ai une autre anecdote rapide, si vous permettez. Le 12 novembre, il y a 3 semaines, il m'a envoyé une plume. J'ai reçu une plume. par l'intermédiaire de Pétillon, il m'a envoyé une de ses plumes. Vous savez, des plumes pour dessiner, là, les plumes qui se font plus. Et moi, ça fait 20 ans que je dessine plus à la plume, je dessine au pinceau. Et hier, j'ai fait un dessin hommage, parce qu'il y a un numéro de Flux Glacial qui va sortir à la fin du mois. Et ce dessin hommage, je l'ai fait avec sa plume. Si vous voulez.
Et c'est bien ?
Je sais pas, parce que c'est comme un instrument de musique que j'ai pas utilisé depuis longtemps. Donc, tu vois, j'étais vraiment pas très à l'aise. Là, j'ai un peu perdu le truc, mais j'ai essayé de me le faire avec sa plume.
La plume de Gottlieb. Vous lui diriez quoi aujourd'hui, Patrice Lecomte ?
Je lui dirais une banalité, parce que je suis très fort pour les banalités, mais je lui dirais simplement qu'il est toujours là, c'est pas grave.
Merci beaucoup à tous les deux.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Quelques minutes avant de se quitter, avant le journal, notre partenaire du Parisien Magazine, François Vey, bonjour.
Bonjour, bonjour Olivia, bonjour à tous.
Au programme aujourd'hui, vous mettez en avant un film de science-fiction étonnant.
Oui, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un film de science-fiction qui est sorti en salle hier. C'est celui du réalisateur québécois Denis Villeneuve, intitulé « Premier contact ». Il est centré sur le rôle du langage, ce qui est un beau thème à traiter, même si c'est très risqué de faire s'exprimer des intelligences extraterrestres. Tout démarre de façon poétique par la belle complicité d'une mère et de sa fille, jusqu'à la tragédie finale, la disparition de cette dernière victime d'un cancer. C'est un prologue assez étrange qui peut faire craindre aux spectateurs de s'être trompé de salle. Mais voilà, cet universitaire reprend sa vie et voit un jour son cours d'amphi subitement déserté, 12 gigantesques coquilles, sortes de mégalithes de 500 mètres de haut chacune, viennent de se poser sur notre planète. D'où viennent-elles? Sont-elles habitées? Que nous veulent-elles? Ces 3 questions, ce sont celles que se pose l'armée américaine, immédiatement mobilisée dans le Montana, où est apparu un de ces objets non identifiés. Et pour y répondre, un colonel débarque en pleine nuit chez notre prof de linguistique, en lui demandant d'interpréter le premier enregistrement audio de ces aliens. Je ne vais pas vous raconter les péripéties suivantes, juste insister sur l'originalité de cette fable, relevant d'une science-fiction aussi originale qu'ambitieuse.
Et qu'est-ce qui vous a intéressé plus particulièrement dans Premier Contact?
Eh bien, écoutez, Denis Villeneuve a réussi à traiter d'un sujet quasi métaphysique sans tomber dans la lourdeur. Sur le fond, il pose intelligemment la question du langage et de la manière dont les langues peuvent influencer, voire modeler nos représentations mentales. Et dans sa forme, il y a, dans ce film, au décor et aux effets spéciaux soignés, des scènes qui font penser à Spielberg, mais aussi à Stanley Kubrick.
Il nous reste 30 secondes. Vous vouliez évoquer un très gros livre d'Antoine Cyr sur les stars hollywoodiennes.
Oui, rapidement, Olivia. Il s'agit d'une étude foisonnante sur la place et le rôle des femmes dans le cinéma américain entre 1930 et 1955, soit l'âge d'or des grands studios d'Hollywood. L'auteur de ce livre, Antoine Cyr, est un cinéphile érudit. Il a visionné 1200 films, consulté 300 ouvrages et il a rédigé cette somme de 1248 pages. Et je vous en recommande chaudement la lecture. Elle est coéditée à l'Institut Lumière et par Actes Sud. Voilà.
Oulou, pour avoir le combat passionnant et pas facile hein, qu'ont mené ces actrices, ces stars pour faire exister les femmes à l'écran le mieux possible. Un grand merci François Vey, tout ça est à retrouver en longueur dans les pages du Parisien Magazine. Merci à vous. France Culture, il est midi passé de 31 minutes.